Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, deuxième partie, Nom de pays, le pays. J'étais arrivé à une presque complète indifférence à l'égard de Gilberte quand, 2 ans plus tard, je partis avec ma grand-mère pour Balbec. Quand je subissais le charme d'un visage nouveau, quand c'était à l'aide d'une autre jeune fille que j'espérais connaître les cathédrales gothiques, les palais et les jardins de l'Italie, je me disais tristement que notre amour, en tant qu'il est l'amour d'une certaine créature, n'est peut-être pas quelque chose de bien réel, puisque si des associations de rêveries agréables ou douloureuses peuvent le lier pendant quelque temps à une femme, jusqu'à nous faire penser qu'il a été inspiré par elle d'une façon nécessaire, en revanche, si nous nous dégageons volontairement ou à notre insu de ces associations, cet amour, comme s'il était au contraire spontané et venait de nous seuls, renaît pour se donner à une autre femme. Pourtant, au moment de ce départ pour Balbec et pendant les premiers temps de mon séjour, mon indifférence n'était encore qu'intermittente. Souvent, notre vie étant si peu chronologique, interférant tant d'anachronismes dans la suite des jours, je vivais dans ceux plus anciens que la veille ou l'avant-veille où j'aimais Gilberte. Alors ne plus la voir m'était soudain douloureux, comme c'eût été dans ce temps-là. Le moi qu'il avait aimé, remplacé déjà presque entièrement par un autre, ressurgissait, et il m'était rendu beaucoup plus fréquemment par une chose futile que par une chose importante. Par exemple, pour anticiper sur mon séjour en Normandie, j'entendis à Balbec un inconnu que je croisais sur la digue dire « La famille du directeur du ministère des Postes ». Or, comme je ne savais pas alors l'influence que cette famille devait avoir sur ma vie, ce propos aurait dû me paraître oiseux. Mais il me causa une vive souffrance, celle qu'éprouvait un moi, aboli pour une grande part depuis longtemps, à être séparé de Gilberte. C'est que jamais je n'avais repensé à une conversation que Gilberte avait eue devant moi avec son père, relativement à la famille du directeur du ministère des Postes. Or, les souvenirs d'amour ne font pas exception aux lois générales de la mémoire, elles-mêmes régies par les lois plus générales de l'habitude. Comme celle-ci affaiblit tout ce qui nous rappelle le mieux un être, c'est justement ce que nous avions oublié, parce que c'était insignifiant et que nous lui avions ainsi laissé toute sa force. C'est pourquoi la meilleure part de notre mémoire est hors de nous, dans un souffle pluvieux, dans l'odeur de renfermé d'une chambre ou dans l'odeur d'une première flambée. Partout où nous retrouvons de nous-mêmes ce que notre intelligence, n'en ayant pas l'emploi, avait dédaigné, la dernière réserve du passé, la meilleure, celle qui, quand toutes nos larmes semblent taries, sait nous faire pleurer encore. Hors de nous, en nous, pour mieux dire, mais dérobés à nos propres regards, dans un oubli plus ou moins prolongé, c'est grâce à cet oubli seul que nous pouvons, dans un autre, retrouver l'être que nous fûmes, nous placer vis-à-vis des choses comme cet être l'été, souffrir à nouveau, parce que nous ne sommes plus nous, mais lui, et qu'il aimait ce qui nous est maintenant indifférent. Au grand jour de la mémoire habituelle, les images du passé pâlissent peu à peu, s'effacent, il ne reste plus rien d'elles, nous ne le retrouverons plus. Ou plutôt, nous ne le retrouverions plus si quelques mots, comme directeur au ministère des Postes, n'avaient été soigneusement enfermés dans l'oubli, de même qu'on dépose à la Bibliothèque nationale un exemplaire d'un livre qui, sans cela, risquerait de devenir introuvable. Mais cette souffrance et ce regain d'amour pour Gilberte ne furent pas plus longs que ceux qu'on a en rêve, et cette fois, au contraire, parce qu'à Balbec, l'habitude ancienne n'était plus là pour les faire durer. Et si ces effets de l'habitude semblent contradictoires, c'est qu'elle obéit à des lois multiples. À Paris, j'étais devenu de plus en plus indifférent à Gilberte grâce à l'habitude. Le changement d'habitude, c'est-à-dire la cessation momentanée de l'habitude, paracheva l'œuvre de l'habitude quand je partis pour Balbec. Elle affaiblit mais stabilise, elle amène la désagrégation mais la fait durer indéfiniment. Chaque jour, depuis des années, je calquais tant bien que mal mon état d'âme sur celui de la veille. À Balbec, un lit nouveau, à côté duquel on m'apportait le matin un petit déjeuner différent de celui de Paris, ne devait plus soutenir les pensées dont s'était nourri mon amour pour Gilberte. Il y a des cas, assez rares il est vrai, où la sédentarité immobilisant les jours, le meilleur moyen de gagner du temps, c'est de changer de place. Mon voyage à Balbec fut comme la première sortie d'un convalescent qui n'attendait plus qu'elle pour s'apercevoir qu'il est guéri. Ce voyage, on le ferait sans doute aujourd'hui en automobile, croyant le rendre ainsi plus agréable. On verra qu'accompli de cette façon, il serait même en un sens plus vrai, puisqu'on y suivrait de plus près, dans une intimité plus étroite, les diverses gradations par lesquelles change la surface de la Terre. Mais enfin, le plaisir spécifique du voyage n'est pas de pouvoir descendre en route et de s'arrêter quand on est fatigué. C'est de rendre la différence entre le départ et l'arrivée non pas aussi insensible, mais aussi profonde qu'on peut, de la ressentir dans sa totalité, intacte, telle qu'elle était dans notre pensée quand notre imagination nous portait du lieu où nous vivions jusqu'au cœur d'un lieu désiré, en un bond qui nous semblait moins miraculeux parce qu'il franchissait une distance que parce qu'il unissait deux individualités distinctes de la Terre, qu'il nous menait d'un nom à un autre nom, et que schématise mieux qu'une promenade où, comme on débarque où l'on veut, il n'y a guère plus d'arrivée, l'opération mystérieuse qui s'accomplissait dans ces lieux spéciaux, les gares, lesquelles ne font pas partie, pour ainsi dire, de la ville, mais contiennent l'essence de sa personnalité, de même que sur un écriteau signalétique, elle porte son nom. Mais en tout genre, notre temps a la manie de vouloir ne montrer les choses qu'avec ce qui les entoure dans la réalité, et par là de supprimer l'essentiel, l'acte de l'esprit qui les isola d'elle. On présente un tableau au milieu de meubles, de bibelots, de tentures de la même époque, fat décor qu'excelle à composer dans les hôtels d'aujourd'hui, la maîtresse de maison la plus ignorante la veille, passant maintenant ses journées dans les archives et les bibliothèques, et au milieu duquel le chef-d'œuvre, qu'on regarde tout en dînant, ne nous donne pas la même enivrante joie qu'on ne doit lui demander que dans une salle de musée, laquelle symbolise bien mieux, par sa nudité et son dépouillement de toute particularité, les espaces intérieurs où l'artiste s'est abstrait pour créer. Malheureusement, ces lieux merveilleux que sont les gares, d'où l'on part pour une destination éloignée, sont aussi des lieux tragiques, car si le miracle s'y accomplit grâce auquel les pays qui n'avaient encore d'existence que dans notre pensée vont être ceux au milieu desquels nous vivrons, pour cette raison même, il faut penser au sortir de la salle d'attente à retrouver tout à l'heure la chambre familière où l'on était il y a un instant encore. Il faut laisser toute espérance de rentrer couché chez soi, une fois qu'on s'est décidé à pénétrer dans l'antre empesté, par où l'on accède au mystère, dans un de ces grands ateliers vitrés comme celui de Saint-Lazare, où j'allais chercher le train de Balbec, et qui déployait, au-dessus de la ville éventrée, un de ces immenses ciels crus et gros de menaces amoncelées de drames, pareil à certains ciels d'une modernité presque parisienne, de Mantegna ou de Véronèse, et sous lequel ne pouvait s'accomplir que quelque acte terrible et solennel, comme un départ en chemin de fer ou l'érection de la croix. Tant que je m'étais contenté d'apercevoir du fond de mon lit de Paris l'Hispersane de Balbec au milieu des flocons de la tempête, aucune objection à ce voyage n'avait été faite par mon corps. Elles avaient commencé seulement quand il avait compris qu'il serait de la partie et que le soir de l'arrivée on me conduirait à ma chambre qui lui serait inconnue. Sa révolte était d'autant plus profonde que la veille même du départ, j'avais appris que ma mère ne nous accompagnerait pas, mon père retenu au ministère jusqu'au moment où il partirait pour l'Espagne avec monsieur de Norpois, ayant préféré louer une maison dans les environs de Paris. D'ailleurs, la contemplation de Balbec ne me semblait pas moins désirable, parce qu'il fallait l'acheter au prix d'un mal qui, au contraire, me semblait figurer et garantir la réalité de l'impression que j'allais chercher. Impression que n'aurait remplacé aucun spectacle prétendu équivalent, aucun panorama que j'eusse pu aller voir, sans être empêché par cela même de rentrer dormir dans mon lit. Ce n'était pas la première fois que je sentais que ceux qui aiment et ceux qui ont du plaisir ne sont pas les mêmes. Je croyais désirer aussi profondément Balbec que le docteur qui me soignait et qui me dit, s'étonnant le matin du départ de mon air malheureux, je vous réponds que si je pouvais seulement trouver 8 jours pour aller prendre le frais au bord de la mer, je ne me ferais pas prier. Vous allez avoir les courses, les régates, ce sera exquis. Pour moi, j'avais déjà appris, et même bien avant d'aller entendre la Berma, que, quelle que fût la chose que j'aimerais, elle ne serait jamais placée qu'au terme d'une poursuite douloureuse, au cours de laquelle il me faudrait d'abord sacrifier mon plaisir à ce bien suprême, au lieu de l'y chercher. Ma grand-mère concevait naturellement notre départ d'une façon un peu différente, et toujours aussi désireuse qu'autrefois de donner au présent qu'on me faisait un caractère artistique, avait voulu, pour m'offrir de ce voyage une épreuve en partie ancienne, que nous refissions moitié en chemin de fer, moitié en voiture, le trajet qu'avait suivi Madame de Sévigné quand elle était allée de Paris à Lorient, en passant par Chaulnes et par le Ponteau de Mer. Mais ma grand-mère avait été obligée de renoncer à ce projet sur la défense de mon père, qui savait, quand elle organisait un déplacement en vue de lui faire rendre tout le profit intellectuel qu'il pouvait comporter, combien on pouvait pronostiquer de trains manqués, de bagages perdus, de maux de gorge et de contraventions. Elle se réjouissait du moins à la pensée que jamais, au moment d'aller sur la plage, nous ne serions exposés à en être empêchés par la survenue de ce que sa chère Sévigné appelle une chienne de carrossée, puisque nous ne connaîtrions personne à Balbec, le grandin ne nous ayant pas offert de lettre d'introduction pour sa sœur. Abstention qui n'avait pas été appréciée de même par mes tantes Céline et Victoire, lesquelles, ayant connu jeune fille celle qu'elle n'avait appelée jusqu'ici pour marquer cette intimité d'autrefois que Renée de Cambremer, et possédant encore d'elle de ces cadeaux qui meublent une chambre et la conversation, mais auxquels la réalité actuelle ne correspond pas, croyait venger notre affront en ne prononçant plus jamais chez madame le grandin mère le nom de sa fille, et se bornant à se congratuler une fois sortie par des phrases comme « Je n'ai pas fait allusion à qui tu sais ». Je crois qu'on aura compris. Donc nous partirions simplement de Paris par ce train de 1h22 que je m'étais plus trop longtemps à chercher dans l'indicateur des chemins de fer et où il me donnait chaque fois l'émotion, presque la bienheureuse illusion du départ, pour ne pas me figurer que je le connaissais. comme la détermination dans notre imagination des traits d'un bonheur tient plus à l'identité des désirs qu'il nous inspire qu'à la précision des renseignements que nous avons sur lui, je croyais connaître celui-là dans ses détails, et ne doutez pas que j'éprouverais dans le wagon un plaisir spécial quand la journée commencerait à fraîchir, que je contemplerais tel effet à l'approche d'une certaine station. Si bien que ce train, réveillant toujours en moi les images des mêmes villes que j'enveloppais dans la lumière de ces heures de l'après-midi qu'il traverse, me semblait différent de tous les autres trains. Et j'avais fini, comme on fait souvent pour un être qu'on n'a jamais vu, mais dont on se plaît à s'imaginer qu'on a conquis l'amitié, par donner une physionomie particulière et immuable à ce voyageur artiste et blond qui m'aurait emmené sur sa route et à qui j'aurais dit adieu au pied de la cathédrale de Saint-Lô avant qu'il se fût éloigné vers le couchant. Comme ma grand-mère ne pouvait se résoudre à aller tout bêtement à Balbec, elle s'arrêterait 24 heures chez une de ses amies, de chez laquelle je repartirais le soir même pour ne pas déranger, et aussi de façon à voir dans la journée du lendemain l'église de Balbec, qui, avions-nous appris, était assez éloignée de Balbec-Plage, et où je ne pourrais peut-être pas aller ensuite au début de mon traitement de bain. Et peut-être était-il moins pénible pour moi de sentir l'objet admirable de mon voyage placé avant la cruelle première nuit où j'entrerai dans une demeure nouvelle et accepterai d'y vivre. Mais il avait fallu d'abord quitter l'ancienne. Ma mère avait arrangé de s'installer ce jour-là même à Saint-Cloud, et elle avait pris, ou fin de prendre, toutes ses dispositions pour y aller directement, après nous avoir conduits à la gare, sans avoir à repasser par la maison où elle craignait que je ne voulusse, au lieu de partir pour Balbec, rentrer avec elle. Et même sous le prétexte d'avoir beaucoup à faire dans la maison qu'elle venait de louer et d'être à court de temps, en réalité, pour m'éviter la cruauté de ce genre d'adieu, elle avait décidé de ne pas rester avec nous jusqu'à ce départ du train, ou, dissimulé auparavant dans des allées et venues et des préparatifs qui n'engagent pas définitivement, une séparation apparaît brusquement impossible à souffrir, alors qu'elle n'est déjà plus possible à éviter, concentrée tout entière dans un instant immense de lucidité impuissante et suprême. Pour la première fois, je sentais qu'il était possible que ma mère vécût sans moi, autrement que pour moi, d'une autre vie. Elle allait habiter de son côté avec mon père, qui peut-être elle trouvait que ma mauvaise santé, ma nervosité, rendait l'existence un peu compliquée et triste. Cette séparation me désolait davantage parce que je me disais qu'elle était probablement pour ma mère le terme des déceptions successives que je lui avais causées, qu'elle m'avait eues, et après lesquelles elle avait compris la difficulté de vacances communes, et peut-être aussi le premier essai d'une existence à laquelle elle commençait à se résigner pour l'avenir, au fur et à mesure que les années viendraient pour mon père et pour elle, d'une existence où je la verrais moins, où, ce qui même dans mes cauchemars ne m'était jamais apparu, elle serait déjà pour moi un peu étrangère, une dame qu'on verrait rentrer seule dans une maison où je ne serais pas, demandant au concierge s'il n'y avait pas de lettre de moi. Je pus à peine répondre à l'employé qui voulut me prendre ma valise. Ma mère essayait pour me consoler des moyens qui lui paraissaient les plus efficaces. Elle croyait inutile d'avoir l'air de ne pas voir mon chagrin. Elle le plaisantait doucement. Eh bien, qu'est-ce que dirait l'église de Balbec si elle savait que c'est avec cet air malheureux qu'on s'apprête à aller la voir? Est-ce cela le voyageur ravi dont parle Ruskin? D'ailleurs, je saurais si tu as été à la hauteur des circonstances. Même loin, je serai encore avec mon petit loup. Tu auras demain une lettre de ta maman. « Ma fille, dit ma grand-mère, je te vois comme Madame de Sévigné, une carte devant les yeux et ne nous quittant pas un instant. Puis maman cherchait à me distraire. Elle me demandait ce que je commanderais pour dîner. Elle admirait Françoise, lui faisant compliment d'un chapeau et d'un manteau qu'elle ne reconnaissait pas, bien qu'ils eussent jadis excité son horreur quand elle les avait vus neufs sur ma grand-tante, l'un avec l'immense oiseau qui le surmontait, l'autre chargé de dessins affreux et de jets. Mais le manteau étant hors d'usage, Françoise l'avait fait retourner et exhiber un envers de drap uni d'un beau ton. Quant à l'oiseau, il y avait longtemps que, cassé, il avait été mis au rancard. Et de même qu'il est quelquefois troublant de rencontrer les raffinements vers lesquels les artistes les plus conscients s'efforcent, dans une chanson populaire, à la façade de quelques maisons de paysans qui fait épanouir au-dessus de la porte une rose blanche où souffrait, juste à la place qu'il fallait, de même, le nœud de velours, la coque de ruban qui eussent ravi dans un portrait de Chardin ou de Whistler, Françoise les avait placés, avec un goût infaillible et naïf, sur le chapeau devenu charmant. Pour remonter à un temps plus ancien, la modestie et l'honnêteté qui donnaient souvent de la noblesse au visage de notre vieille servante, ayant gagné les vêtements que, en femme réservée mais sans bassesse, qui sait tenir son rond et garder sa place, elle avait revêtu pour le voyage afin d'être digne d'être vue avec nous, sans avoir l'air de chercher à se faire voir, Françoise, dans le drap cerise, mais passé de son manteau et les poils sans rudesse de son collet de fourrure, faisait penser à quelqu'une de ces images d'Anne de Bretagne, peintes dans des livres d'heures par un vieux maître, et dans lesquelles tout est si bien en place, le sentiment de l'ensemble s'est si également répandu dans toutes les parties, que la riche et désuète singularité du costume exprime la même gravité pieuse que les yeux, les lèvres et les mains. On aurait pu parler de pensée à propos de Françoise. Elle ne savait rien dans ce sens total où ne rien savoir équivaut à ne rien comprendre, sauf les rares vérités que le cœur est capable d'atteindre directement. Le monde immense des idées n'existait pas pour elle, mais devant la clarté de son regard, devant les lignes délicates de ce nez, de ses lèvres, devant tous ces témoignages absents de tant d'êtres cultivés, chez qui ils eussent signifié la distinction suprême, le noble détachement d'un esprit d'élite, on était troublé comme devant le regard intelligent et bon d'un chien, à qui on sait pourtant que sont étrangères toutes les conceptions des hommes, et on pouvait se demander s'il n'y avait pas parmi ses autres humbles frères, les paysans, des êtres qui sont, comme les hommes supérieurs du monde, des simples d'esprit, ou plutôt qui, condamnés par une injuste destinée à vivre parmi les simples d'esprit, privés de lumière, mais qui pourtant plus naturellement, plus essentiellement apparentés aux natures d'élite que ne le sont la plupart des gens instruits, sont comme des membres dispersés, égarés, privés de raison, de la famille sainte, des parents restés en enfance, les plus hautes intelligences et auxquelles, comme il apparaît dans la lueur impossible à méconnaître de leurs yeux où pourtant elle ne s'applique à rien, il n'a manqué pour avoir du talent que du savoir. Ma mère, voyant que j'avais peine à contenir mes larmes, me disait « Régulus avait coutume dans les grandes circonstances ». Et puis ce n'est pas gentil pour ta maman. Citons Madame de Sévigné comme ta grand-mère, je vais être obligé de me servir de tout le courage que tu n'as pas. » Et se rappelant que l'affection pour autrui détourne des douleurs égoïstes, elle tâchait de me faire plaisir en me disant qu'elle croyait que son trajet de Saint-Cloud s'effectuerait bien, qu'elle était contente du fiacre qu'elle avait gardé, que le cocher était poli et la voiture confortable. Je m'efforçais de sourire à ces détails et j'inclinais la tête d'un air d'acquiescement et de satisfaction. Mais il ne m'aidait qu'à me représenter avec plus de vérité le départ de maman, et c'est le cœur serré que je la regardais, comme si elle était déjà séparée de moi, sous ce chapeau de paillerons qu'elle avait acheté pour la campagne, dans une robe légère qu'elle avait mise à cause de cette longue course par la pleine chaleur, et qui la faisait autre, appartenant déjà à la villa de Montretout, où je ne la verrais pas. Pour éviter les crises de suffocation que me donnerait le voyage, le médecin m'avait conseillé de prendre au moment du départ un peu trop de bière ou de cognac, afin d'être dans un état qu'il appelait euphorie, où le système nerveux est momentanément moins vulnérable. J'étais encore incertain si je le ferais, mais je voulais au moins que ma grand-mère reconnût qu'au cas où je m'y déciderais, j'aurais pour moi le droit et la sagesse. Aussi j'en parlais comme si mon hésitation ne portait que sur l'endroit où je boirais de l'alcool, buffet ou wagon-bar. Mais aussitôt, à l'air de blâme que prit le visage de ma grand-mère, et de ne pas même vouloir s'arrêter à cette idée, « Comment ? » m'écriai-je, me résolvant soudain à cette action d'aller boire, dont l'exécution devenait nécessaire à prouver ma liberté, puisque son annonce verbale n'avait pu passer sans protestation. « Comment ? Tu sais bien que je suis malade. Tu sais ce que le médecin m'a dit. Et voilà le conseil que tu me donnes. » Quand j'eus expliqué mon malaise à ma grand-mère, elle eut un air si désolé, si bon, en répondant « Mais alors va vite chercher de la bière ou une liqueur, si cela doit te faire du bien, » que je me jetai sur elle et la couvris de baisers. Et si j'allais cependant boire beaucoup trop dans le bar du train, ce fut parce que je sentais que sans cela j'aurais un accès trop violent et que c'est encore ce qui la peinerait le plus. Quant à la première station, je remontai dans notre wagon, je dis à ma grand-mère combien j'étais heureux d'aller à Balbec, que je sentais que tout s'arrangerait bien, qu'au fond je m'habituerais vite à être loin de maman, que ce train était agréable, l'homme du bar et les employés si charmants, que j'aurais voulu refaire souvent ce trajet pour avoir la possibilité de les revoir. Ma grand-mère, cependant, ne paraissait pas éprouver la même joie que moi de toutes ces bonnes nouvelles. Elle me répondit en évitant de me regarder « Tu devrais peut-être essayer de dormir un peu » et tourna les yeux vers la fenêtre dont nous avions laissé le rideau qui ne remplissait pas tout le cadre de la vitre, de sorte que le soleil pouvait glisser sur le chêne ciré de la portière et le drap de la banquette, comme une réclame beaucoup plus persuasive pour une vie mêlée à la nature que celles accrochées trop haut dans le wagon par les soins de la compagnie et représentant des paysages dont je ne pouvais pas lire les noms. La même clarté tiède et dormante qui faisait la sieste dans les clairières. Mais quand ma grand-mère croyait que j'avais les yeux fermés, je la voyais par moments sous son voile à gros poids, jeter un regard sur moi, puis le retirer, puis recommencer, comme quelqu'un qui cherche à s'efforcer pour s'y habituer à un exercice qui lui est pénible. Alors je lui parlais, mais cela ne semblait pas lui être agréable, et à moi pourtant ma propre voix me donnait du plaisir, et de même les mouvements les plus insensibles, les plus intérieurs de mon corps. Aussi je tâchais de les faire durer, je laissais chacune de mes inflexions s'attarder longtemps aux mots, je sentais chacun de mes regards se trouver bien là où il s'était posé, et y rester au-delà du temps habituel. « Alors repose-toi, » me dit ma grand-mère, « si tu ne peux pas dormir, lis quelque chose. » Et elle me passa un volume de Madame de Sévigné que j'ouvris, pendant qu'elle-même s'absorbait dans les mémoires de Madame de Beausergent. Elle ne voyageait jamais sans un tome de l'une et de l'autre, c'étaient ses deux auteurs de prédilection. Ne bougeant pas volontiers ma tête en ce moment et éprouvant un grand plaisir à garder une position, une fois que je l'avais prise, je restais à tenir le volume de Madame de Sévigné sans l'ouvrir. Et je n'abaissais pas sur lui mon regard, qui n'avait devant lui que le store bleu de la fenêtre. Mais contempler ce store me paraissait admirable, et je n'eusse pas pris la peine de répondre à qui eût voulu me détourner de ma contemplation. La couleur bleue du store me semblait, non peut-être par sa beauté, mais par sa vivacité intense, effacer à tel point toutes les couleurs qui avaient été devant mes yeux depuis le jour de ma naissance jusqu'au moment où j'avais fini d'avaler ma boisson et où elle avait commencé de faire son effet, qu'à côté de ce bleu du store, elles étaient pour moi aussi ternes, aussi nulles, que peut l'être rétrospectivement l'obscurité où ils ont vécu, pour les aveugles nés qu'on opère sur le tard et qui voient enfin les couleurs. Un vieil employé vint nous demander nos billets. Les reflets argentés qu'avaient les boutons en métal de sa tunique ne laissèrent pas de me charmer. Je voulus lui demander de s'asseoir à côté de nous, mais il passa dans un autre wagon et je songeais avec nostalgie à la vie des cheminots, lesquels, passant tout leur temps en chemin de fer, ne devaient guère manquer un seul jour de voir ce vieil employé. Le plaisir que j'éprouvais à regarder le store bleu et à sentir que ma bouche était à demi ouverte commença enfin à diminuer. Je devins plus mobile, je remuai un peu, j'ouvris le volume que ma grand-mère m'avait tendu et je pus fixer mon attention sur les pages que je choisis çà et là. Tout en lisant, je sentais grandir mon admiration pour Madame de Sévigné. Il ne faut pas se laisser tromper par des particularités purement formelles qui tiennent à l'époque, à la vie de salon, et qui font que certaines personnes croient qu'elles ont fait leur Sévigné quand elles ont dit « Mandez-moi ma bonne » ou « Ce comte me parut avoir bien de l'esprit » ou « Fanée est la plus jolie chose du monde ». Déjà, Madame de Simiane s'imagine ressembler à sa grand-mère parce qu'elle écrit « Monsieur de la Boulie se porte à merveille, monsieur, et il est fort en état d'entendre des nouvelles de sa mort. » Ou « Ô mon cher marquis, que votre lettre me plaît, le moyen de ne pas y répondre. » Ou encore « Il me semble, monsieur, que vous me devez une réponse, et moi des tabatières de Bergamote. Je m'en acquitte pour 8, il en viendra d'autres. » Jamais la terre n'en avait emporté, c'est apparemment pour vous plaire. » Et elle écrit, dans ce même genre, la lettre sur la saignée, sur les citrons, etc. Qu'elle se figure être des lettres de Madame de Sévigné. Mais ma grand-mère, qui était venue à celle-ci par le dedans, par l'amour pour les siens, pour la nature, m'avait appris à en aimer les vraies beautés qui sont tout autres. Elle devait bientôt me frapper d'autant plus que Madame Sévigné est une grande artiste de la même famille qu'un peintre que j'allais rencontrer à Balbec et qui eut une influence si profonde sur ma vision des choses, Elstir. Je me rendis compte à Balbec que c'est la même façon que lui qu'elle nous présente les choses, dans l'ordre de nos perceptions, au lieu de les expliquer d'abord par leur cause. Mais déjà cet après-midi-là, dans ce wagon, en relisant la lettre où apparaît le clair de lune, je ne pus résister à la tentation. Je mets toutes mes coiffes et casques qui n'étaient pas nécessaires, je vais dans ce mail dont l'air est bon comme celui de ma chambre, je trouve 1000 coxigrues, des moines blancs et noirs, plusieurs religieuses grises et blanches, du linge jeté par-ci par-là, des hommes ensevelis tout droit contre des arbres, etc. Je fus ravi par ce que j'eusse appelé un peu plus tard, ne peint-elle pas les paysages de la même façon que lui les caractères, le côté Dostoïevski des lettres de Madame de Sévigné. Quand le soir, après avoir conduit ma grand-mère et être resté quelques heures chez son ami, j'eus repris seul le train, du moins je ne trouvais pas pénible la nuit qui vint. C'est que je n'avais pas à la passer dans la prison d'une chambre dont l'ensommeillement me tiendrait éveillé. J'étais entouré par la calme activité de tous ces mouvements du train qui me tenaient compagnie. S'offraient à causer avec moi si je ne trouvais pas le sommeil, me berçaient de leur bruit que j'accouplais comme le son des cloches à Combray, tantôt sur un rythme, tantôt sur un autre, entendant selon ma fantaisie d'abord quatre doubles croches égales, puis une double croche furieusement précipitée contre une noire. Il neutralisait la force centrifuge de mon insomnie en exerçant sur elle des pressions contraires qui me maintenaient en équilibre et sur lesquelles mon immobilité et bientôt mon sommeil se sentirent portés avec la même impression rafraîchissante que m'aurait donné le repos dû à la vigilance de forces puissantes au sein de la nature et de la vie, si j'avais pu pour un moment m'incarner en quelque poisson qui dort dans la mer, promené dans son assoupissement par les courants et la vague, ou en quelque aigle étendu sur le seul appui de la tempête. Les levées de soleil sont un accompagnement des longs voyages en chemin de fer, comme les œufs durs, les journaux illustrés, les jeux de cartes, les rivières où des barques s'évertuent sans avancer. À un moment où je dénombrais les pensées qui avaient rempli mon esprit pendant les minutes précédentes pour me rendre compte si je venais ou non de dormir, et où l'incertitude même qui me faisait me poser la question était en train de me fournir une réponse affirmative, dans le carreau de la fenêtre, au-dessus d'un petit bois noir, je vis des nuages échancrés dont le doux duvet était d'un rose fixé, mort, qui ne changera plus, comme celui qui teint les plumes de l'aile qu'il a assimilée ou le pastel sur lequel l'a déposé la fantaisie du peintre. Mais je sentais qu'au contraire, cette couleur n'était ni inertie ni caprice, mais nécessité et vie. Bientôt s'amoncelèrent derrière elle des réserves de lumière. Elle s'aviva, le ciel devint d'un incarnat que je tâchais en collant mes yeux à la vitre, de mieux voir, car je le sentais en rapport avec l'existence profonde de la nature, mais la ligne du chemin de fer ayant changé de direction, le train tourna, la scène matinale fut remplacée dans le cadre de la fenêtre par un village nocturne au toit bleu de clair de lune avec un lavoir encrassé de la nacre opaline de la nuit, sous un ciel encore semé de toutes ces étoiles, et je me désolais d'avoir perdu ma bande de ciel rose quand je l'aperçus de nouveau, mais rouge cette fois, dans la fenêtre d'en face, qu'elle abandonna à un deuxième coude de la voie ferrée, si bien que je passais mon temps à courir d'une fenêtre à l'autre pour rapprocher, pour rentoiler les fragments intermittents et opposites de mon beau matin écarlate et versatile, et en avoir une vue totale et un tableau continu. Le paysage devint accidenté, abrupt, le train s'arrêta à une petite gare entre deux montagnes. On ne voyait au fond de la gorge, au bord du torrent, qu'une maison de garde enfoncée dans l'eau qui coulait au ras des fenêtres. Si un être peut être le produit d'un sol dont on goûte en lui le charme particulier, plus encore que la paysanne que j'avais tant désiré voir apparaître quand j'errais seul du côté de mes églises, dans les bois de Roussainville, ce devait être la grande fille que je vis sortir de cette maison, et sur le sentier qui illuminait obliquement le soleil levant, venir vers la gare en portant une jarre de lait. Dans la vallée à qui ses hauteurs cachaient le reste du monde, elle ne devait jamais voir personne que dans ses trains qui ne s'arrêtaient qu'un instant. Elle longea les wagons, offrant du café au lait à quelques voyageurs réveillés. empourpré des reflets du matin, son visage était plus rose que le ciel. Je ressentis devant elle ce désir de vivre qui renaît en nous chaque fois que nous prenons de nouveau conscience de la beauté et du bonheur. Nous oublions toujours qu'ils sont individuels et leur substituant dans notre esprit un type de convention que nous formons en faisant une sorte de moyenne entre les différents visages qui nous ont plu, entre les plaisirs que nous avons connus, nous n'avons que des images abstraites qui sont languissantes et fades parce qu'il leur manque précisément ce caractère d'une chose nouvelle, différente de ce que nous avons connu, ce caractère qui est propre à la beauté et au bonheur. Et nous portons sur la vie un jugement pessimiste, et que nous supposons juste, car nous avons cru y faire entrer en ligne de compte le bonheur et la beauté quand nous les avons omis et remplacés par des synthèses, où deux, il n'y a pas un seul atome. C'est ainsi que bâille d'avance d'ennui un lettré à qui on parle d'un nouveau beau livre, parce qu'il imagine une sorte de composé de tous les beaux livres qu'il a lus, tandis qu'un beau livre est particulier, imprévisible, et n'est pas fait de la somme de tous les chefs-d'œuvre précédents, mais de quelque chose que s'être parfaitement assimilé cette somme ne suffit nullement à faire trouver, car c'est justement en dehors d'elle. Dès qu'il a eu connaissance de cette nouvelle œuvre, le lettré, tout à l'heure blasé, se sent de l'intérêt pour la réalité qu'elle dépeint. Telle, étrangère au modèle de beauté que dessinait ma pensée quand je me trouvais seul, la belle fille me donna aussitôt le goût d'un certain bonheur, seule forme toujours particulière sous laquelle nous puissions connaître le goût du bonheur, d'un bonheur qui se réaliserait en vivant auprès d'elle. Mais ici encore, la cessation momentanée de l'habitude agissait pour une grande part. Je faisais bénéficier la marchande de lait de ce que c'était mon être complet, apte à goûter de vives jouissances, qui était en face d'elle. C'est d'ordinaire avec notre être réduit au minimum que nous vivons. La plupart de nos facultés restent endormies parce qu'elles se reposent sur l'habitude qui sait ce qu'il y a à faire et n'a pas besoin d'elle. Mais par ce matin de voyage, l'interruption de la routine de mon existence, le changement de lieu et d'heure, avait rendu leur présence indispensable. Mon habitude, qui était sédentaire et n'était pas matinale, faisait défaut, et toutes mes facultés étaient accourues pour la remplacer, rivalisant entre elles de zèle, s'élevant toutes comme des vagues à un même niveau inaccoutumé, de la plus basse à la plus noble, de la respiration, de l'appétit et de la circulation sanguine à la sensibilité et à l'imagination. Je ne sais si, en me faisant croire que cette fille n'était pas pareille aux autres femmes, le charme sauvage de ces lieux ajoutait au sien. Mais elle le leur rendait. La vie m'aurait paru délicieuse si seulement j'avais pu, heure par heure, la passer avec elle, l'accompagner jusqu'au torrent, jusqu'à la vache, jusqu'au train, être toujours à ses côtés, me sentir connu d'elle, ayant ma place dans sa pensée. Elle m'aurait initié au charme de la vie rustique et des premières heures du jour. Je lui fis signe qu'elle vint me donner du café au lait. J'avais besoin d'être remarqué d'elle. Elle ne me vit pas, je l'appelai. Au-dessus de son corps très grand, le teint de sa figure était si doré et si rose qu'elle avait l'air d'être vue à travers un vitrail illuminé. Elle revint sur ses pas. Je ne pouvais détacher mes yeux de son visage de plus en plus large, pareil à un soleil qu'on pourrait fixer et qui s'approcherait jusqu'à venir tout près de vous, se laissant regarder de près, vous éblouissant d'or et de rouge. Elle posa sur moi son regard perçant, mais comme les employés fermaient les portières, le train se mit en marche. Je la vis quitter la gare et reprendre le sentier. Il faisait grand jour maintenant, je m'éloignais de l'aurore. que mon exaltation eût été produite par cette fille, ou au contraire, eût causé la plus grande partie du plaisir que j'avais eu à me trouver près d'elle. En tout cas, elle était si mêlée à lui que mon désir de la revoir était avant tout le désir moral de ne pas laisser cet état d'excitation périr entièrement, de ne pas être séparé à jamais de l'être qui y avait, même à son insu, participé. Ce n'est pas seulement que cet état fût agréable, c'est surtout que, comme la tension plus grande d'une corde ou la vibration plus rapide d'un air produit une sonorité ou une couleur différente, il donnait une autre tonalité à ce que je voyais. Il m'introduisait comme acteur dans un univers inconnu et infiniment plus intéressant. Cette belle fille que j'apercevais encore, tandis que le train accélérait sa marche, c'était comme une partie d'une vie autre que celle que je connaissais, séparée d'elle par un liseré, et où les sensations qu'éveillaient les objets n'étaient plus les mêmes, et d'où sortir maintenant eût été comme mourir à moi-même. Pour avoir la douceur de me sentir du moins attaché à cette vie, il eût suffi que j'habitasse assez près de la petite station pour pouvoir venir tous les matins demander du café au lait à cette paysanne. Mais hélas, elle serait toujours absente de l'autre vie vers laquelle je m'en allais de plus en plus vite et que je ne me résignais à accepter qu'en combinant des plans qui me permettraient un jour de reprendre ce même train et de m'arrêter à cette même gare, projet qui avait aussi l'avantage de fournir un aliment à la disposition intéressée, active, pratique, machinale, paresseuse, centrifuge, qui est celle de notre esprit. Car il se détourne volontiers de l'effort qu'il faut pour approfondir en soi-même, d'une façon générale et désintéressée, une impression agréable que nous avons eue. Et comme d'autre part nous voulons continuer à penser à elle, il préfère l'imaginer dans l'avenir, préparer habilement les circonstances qui pourront la faire renaître, ce qui ne nous apprend rien sur son essence, mais nous évite la fatigue de la recréer en nous-mêmes et nous permet d'espérer la recevoir de nouveau du dehors. Certains noms de villes, Vézelay ou Chartres, Bourges ou Beauvais, servent à désigner par abréviation leur église principale. Cette acception partielle où nous le prenons si souvent finit, s'il s'agit de lieux que nous ne connaissons pas encore, par sculpter le nom tout entier qui, dès lors, quand nous voudrons y faire entrer l'idée de la ville que nous n'avons jamais vue, lui imposera, comme un moule, les mêmes ciselures et du même style, en fera une sorte de grande cathédrale. Ce fut pourtant à une station de chemin de fer, au-dessus d'un buffet en lettres blanches sur un avertisseur bleu, que je lus le nom, presque de style persan, de Balbec. Je traversai vivement la gare et le boulevard qui y aboutissait. Je demandai la greffe pour ne voir que l'église et la mer. On n'avait pas l'air de comprendre ce que je voulais dire. Balbec le vieux, Balbec en terre, où je me trouvais, n'était ni une plage ni un port. Certes, c'était bien dans la mer que les pêcheurs avaient trouvé, selon la légende, le Christ miraculeux, dont un vitrail de cette église qui était à quelques mètres de moi racontait la découverte. C'était bien de falaises battues par les flots qu'avait été tirée la pierre de la nef et des tours. Mais cette mer, qu'à cause de cela j'avais imaginée venant mourir au pied du vitrail, était à plus de 5 lieues de distance, à Balbec-Plage, et à côté de sa coupole, ce clocher que, parce que j'avais lu qu'il était lui-même une âpre falaise normande où s'amassaient les grains, où tournoyaient les oiseaux, je m'étais toujours représenté comme recevant à sa base la dernière écume des vagues soulevées, il se dressait sur une place où était l'embranchement de 2 lignes de tramway, en face d'un café qui portait écrit en lettres d'or le mot « billard ». Il se détachait sur un fond de maison au toit desquels ne se mêlait aucun mât. Et l'Église, entrant dans mon attention avec le café, avec le passant à qui il avait fallu demander mon chemin, avec la gare où j'allais retourner, faisait un avec tout le reste, semblait un accident, un produit de cette fin d'après-midi, dans laquelle la coupole moelleuse et gonflée sur le ciel était comme un fruit, dont la même lumière qui baignait les cheminées des maisons mûrissait la peau rose, dorée et fondante. Mais je ne voulus plus penser qu'à la signification éternelle des sculptures quand je reconnus les apôtres dont j'avais vu les statues moulées au musée du Trocadéro et qui, des deux côtés de la Vierge, devant la baie profonde du porche, m'attendaient comme pour me faire honneur. La figure bienveillante, camuse et douce, le dos voûté, il semblait s'avancer d'un air de bienvenue en chantant l'Alléluia d'un beau jour. Mais on s'apercevait que leur expression était immuable comme celle d'un mort et ne se modifiait que si on tournait autour d'eux. Je me disais, c'est ici, c'est l'église de Balbec. Cette place qui a l'air de savoir sa gloire est le seul lieu du monde qui possède l'église de Balbec. Ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est des photographies de cette église et de ces apôtres, de cette Vierge du porche si célèbre, les moulages seulement. Maintenant, c'est l'église elle-même, c'est la statue elle-même, ce sont elles, elles, les uniques, c'est bien plus. C'était moi aussi, peut-être, comme un jeune homme, un jour d'examen ou de duel, trouve le fait sur lequel on l'a interrogé, la balle qu'il a tirée, bien peu de choses quand il pense aux réserves de science et de courage qu'il possède, et dont il aurait voulu faire preuve. De même, mon esprit, qui avait dressé la Vierge du porche hors des reproductions que j'en avais eues sous les yeux, inaccessible aux vicissitudes qui pouvaient menacer celle-ci, intacte si on les détruisait, idéal, ayant une valeur universelle, s'étonnait de voir la statue qu'il avait mille fois sculptée, réduite maintenant à sa propre apparence de pierre, occupant par rapport à la portée de mon bras une place où elle avait pour rivale une affiche électorale et la pointe de ma canne. Enchaînée à la place, inséparable du débouché de la grand-rue, ne pouvant fuir les regards du café et du bureau d'omnibus, recevant sur son visage la moitié du rayon de soleil couchant, et bientôt dans quelques heures de la clarté du réverbère, dont le bureau du comptoir d'escompte recevait l'autre moitié, gagné en même temps que cette succursale d'un établissement de crédit par le relent des cuisines du pâtissier. Soumise à la tyrannie du particulier, au point que si j'avais voulu tracer ma signature sur cette pierre, c'est elle, la Vierge illustre, que jusque-là j'avais douée d'une existence générale et d'une intangible beauté, la Vierge de Balbec, l'unique, ce qui hélas voulait dire la seule, qui, sur son corps encrassé de la même suie que les maisons voisines, aurait, sans pouvoir s'en défaire, montrer à tous les admirateurs venus là pour la contempler la trace de mon morceau de craie et les lettres de mon nom. Et c'était-elle enfin l'œuvre d'art immortelle et si longtemps désirée que je trouvais métamorphosée, ainsi que l'église elle-même, en une petite vieille de pierre dont je pouvais mesurer la hauteur et compter les rides.